que le micro fonctionne. Voilà. Merci, professeur Gay. Vraiment, c'est impressionnant. Je vois que vous avez extrêmement bien étudié le sujet, mais je pense que je vais pouvoir apporter une perspective assez différente, ce qui prouve que nos organisateurs ont bien choisi les débatteurs, parce qu'effectivement, je pense que nous nous positionnons sur différents aspects à une certaine distance qui va nous permettre de débattre après. Moi, j'ai noté plusieurs choses auxquelles j'aimerais vous répondre. Nous aurons l'occasion de discuter. Ça va être très intéressant, je pense. D'abord, le professeur Gay a dit qu'il estime que le secret bancaire n'est pas mort. Il a argumenté de façon, à mon avis, convaincante. Cela dit, moi, je vais partir de la réalité de la place financière genevoise que je côtoie depuis quelques années pour vous dire qu'effectivement, comme le titre de mon livre le prétend, à mon avis, le secret bancaire est bel et bien mort. Le secret bancaire a revêtu ces dernières années, depuis longtemps, la signification de secret fiscal. Et à ce titre, il est effectivement mort, puisque 80% des clients européens qui avaient leur dépôt dans les banques suisses étaient non déclarés. Ces clients-là, aujourd'hui, sont tout à fait conscients qu'à tout moment, leur gouvernement est susceptible de faire une demande d'information. Vous avez raison, professeur Gay, que c'est une demande qui doit être précisée, qu'il y a encore quelques obstacles à un accès illimité aux informations fiscales des clients de banques suisses. Mais la réalité est aujourd'hui que les Européens ne peuvent plus compter sur le secret bancaire suisse pour les protéger de leurs fiscs nationaux et que les vols de données bancaires et toutes les pressions qu'il y a eu contre la Suisse a rendu ces clients particulièrement méfiants aujourd'hui et même conscients pour la première fois de leur vie que la Suisse peut présenter une insécurité juridique et qui a rendu cette juridiction en réalité moins compétitive que beaucoup d'autres juridictions dont je vais vous parler tout de suite. Alors, commençons par une déclaration que le sénateur Carl Levin a faite en pleine affaire UBS en mars 2009, qui est très intéressante à plusieurs égards. Alors, elle dit la chose suivante, les Suisses érigent au rang de valeur nationale le secret bancaire au même titre que nous, les Américains, nous valorisons la liberté et la démocratie. Alors, magnifique phrase, comme dit le professeur Gay, je vais reprendre là, je vais dire que c'est une déclaration propagandiste, sachant que les États-Unis ne sont autre que le plus grand paradis fiscal au monde. Il faut être conscient de cela quand on parle de la Suisse. Il faut être conscient dans quel contexte international elle s'inscrit. Elle s'inscrit dans un contexte où ses deux principaux concurrents sont les États-Unis et le Royaume-Uni. Ce sont les deux plus grandes places d'opacité financière dans le monde aujourd'hui. Le Sénat américain l'a lui-même constaté en 2006. Il a dit: nous avons 1 500 milliards de dollars d'avoirs de citoyens américains non déclarés. Ces avoirs se situent dans les paradis fiscaux anglo-saxons comme les Caraïbes et il n'a jamais, pas une seule fois, parlé dans ses rapports, ses enquêtes extrêmement fouillées, de secret bancaire. Il a parlé de secret financier. Le secret financier dans le monde anglo-saxon est très très bien connu puisque c'est le principal secret. C'est le principal secret fiscal, c'est-à-dire c'est le secret des sociétés offshore, c'est le secret des trusts et de toute entité qui se compose de trusts, de sociétés offshore, de tous ces montages qui sont aujourd'hui les structures qui rassemblent l'essentiel de l'évasion fiscale dans le monde. Voilà la réalité. Je prétends que le secret bancaire, depuis en tout cas une quinzaine d'années, est devenu un mécanisme totalement archaïque et dépassé, qui n'a plus pu capter autant d'avoirs non déclarés que par le passé. Et à ce titre, je trouve intéressant que nos deux présentations couvrent des moments différents dans l'histoire, puisque moi, je me base en fait sur les 15 dernières années. Ça a été très intéressant parce que la Suisse a perdu le marché de l'évasion fiscale progressivement. En effet, elle a été attaquée plusieurs fois par des moyens subtils à l'occasion de la signature, par exemple, du traité d'échange d'informations avec les États-Unis en 1994 déjà, dans lequel il était déjà question d'échanger avec les États-Unis des informations fiscales. C'était indiqué de manière très floue, mais la Suisse s'est fait tordre le bras par les États-Unis déjà depuis les années 90 et elle n'avait pas de secret de secret fiscal pour les États-Unis depuis bien longtemps. Ensuite, elle a signé, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais des accords d'intermédiaires qualifiés en 2001 avec les États-Unis, où il était question qu'elle prélève à la source des impôts sur les citoyens américains ou qu'elle les déclare elle-même au fisc américain. Bref, depuis plusieurs années, les accords avait réduit l'étanchéité du secret bancaire, puisqu'il était toujours possible, concevable, disons, à partir de là, que des informations soient échangées dans des affaires de simple soustraction et non pas d'escroquerie fiscale. Bon, aujourd'hui, l'entité qui capte l'essentiel, qui s'avère être la plus performante et de loin pour capter l'évasion fiscale, ce n'est pas du tout le secret bancaire d'aucun pays d'ailleurs, mais c'est le trust international. Qu'est-ce que c'est qu'un trust ? C'est, il y a du génie dans la conception du trust, puisque ça vous permet de vous dessaisir légalement de votre fortune en faveur de quelqu'un qui est un mandataire, un trustee, et par là même, vous pouvez déclarer que vous ne possédez plus cette fortune. Donc, devant le fisc, vous n'êtes plus redevable d'impôt sur cette fortune. Ça, c'est le principe du trust qui s'apparente un petit peu à une donation et qui, à la base, n'était autre qu'une forme de testament à l'anglo-saxonne. Le trust existe depuis 200 ans, ça n'a pas été créé pour l'évasion fiscale, mais il faut dire que depuis les années 60, il y a eu un décollage incroyable, comme l'a constaté Sébastien Gay, sous la pression fiscale dans l'Union européenne, notamment, un marché de l'évasion fiscale s'est créé, qui s'est orienté vers le trust international, surtout pour les grandes fortunes, les richissimes patrimoines d'Europe, sont allés se placer dans des trust. Et de ce fait, le trust, comme le constate cette associée du cabinet anglo-saxon Baker & McKenzie en 2007, elle constate que le trust a supplanté les instruments traditionnels du droit civil, qui en fait sont les secrets bancaires, et permet aujourd'hui, en 2007, il n'était pas tabou de parler de ces questions, donc elle l'a dit très ouvertement, elle l'a écrit dans une chronique, elle a dit « le trust international est vraiment le moyen aujourd'hui de faire de la planification et même de l'évasion fiscale ». C'est un marché évidemment très lucratif que possèdent aujourd'hui les cabinets fiscaux anglo-saxons qui sont basés souvent à New York, à Washington, dans les Caraïbes, dans les îles anglo-normandes. Ils contrôlent réellement ce marché puisque c'est un marché qui relève du droit anglais. Ces entités-là sont ancrées dans le droit anglais. La Suisse n'a pas de droit anglais, ni le Luxembourg, ni la Belgique. Le droit anglais, c'est les juridictions anglo-saxonnes, ce sont les paradis fiscaux dépendants de la couronne britannique ou des États-Unis qui ont profité de ce marché. Je cite là aussi Tax Justice Network, qui est proche de la déclaration de Bernie Dattac, qui a fait une recherche extrêmement intéressante sur l'évasion fiscale qui emprunte les trusts internationaux. Et il a vraiment prouvé que le trust offre une forme de secret beaucoup plus hermétique que le secret bancaire suisse. Là, je vous propose de constater que la pression fiscale en Europe depuis le 1965, ça vient du rapport de l'OCDE, tout bêtement, j'ai mis quelques pays d'Europe où on voit qu'il est indéniable que la tendance a été à la hausse entre 65 et 2007 des recettes fiscales en pourcent des PIB. Donc, le marché, il est là. Le marché de l'évasion fiscale, il est là, il existe. Simplement, il vient de moins en moins vers les pays à secret bancaire qui s'avèrent être trop archaïques et moins performants, et il va vers les structures hyper étanches que sont ces fameuses entités de droit anglo-saxon. À combien est estimé le marché de l'évasion fiscale ? Il est gigantesque. Tax Justice Network l'a estimé à 11 500 milliards de dollars en 2005. Moi, j'ai actualisé ces chiffres à 2010 avec un taux très conservateur de 3%, en se disant si ça avait gagné du 3% tous ces avoirs non déclarés, il serait aujourd'hui à 13 500 milliards de dollars. Là-dessus, la Suisse est devenue en réalité tout à fait marginale, parce qu'il faut voir qu'est-ce qui peut vraiment entrer dans le monde du non déclaré. Ce n'est pas juste les avoirs liquides placés dans un compte en banque suisse. C'est des yachts, de l'immobilier de luxe, des écuries, des entreprises privées, des collections de bijoux, des collections d'art. Vous pouvez tout mettre dans un trust, y compris des sociétés, des entreprises. Donc là, on a un immense univers opaque, principalement basé dans les paradis fiscaux anglo-saxons, qui aujourd'hui échappe à toute pression, ou presque. C'est-à-dire, moi, ce que je dénonce, c'est que pression s'est exclusivement concentrée sur la Suisse et n'a pas atteint les paradis fiscaux qui cultivent des pratiques d'opacité fiscale scandaleuses au jour d'aujourd'hui et en pleine guerre contre l'évasion fiscale. Donc ça, il était très important de le souligner. Au jour d'aujourd'hui, avec la signature de conventions de double imposition et la nouvelle norme internationale qui est l'échange de renseignements fiscaux à la demande, les trusts qui renferment pourtant le plus d'avoirs non déclarés dans le monde actuel n'échangent pas d'informations. Vous ne pouvez pas obtenir d'informations. Si vous êtes un Italien, une grande fortune italienne qui a un trust à Jersey, comme c'est très souvent le cas, vous demandez, l'Italie demande à Jersey d'obtenir des renseignements sur le titulaire du compte du trust. Jersey ne lui offrira pas d'informations. Les îles anglo-normandes, d'ailleurs, sont connues pour ne pas collaborer même dans des affaires criminelles, dans des affaires pénales. Ils ne transmettent pas non plus d'informations. C'est un comportement notoire qui fait que les paradis fiscaux anglo-saxons ont pu maintenir une opacité très, très élevée, même au jour d'aujourd'hui, tandis que la Suisse a quand même appliqué les lois anti-blanchiment, d'abord avec beaucoup de rigueur, a été très zélée dans son respect des traités et du droit en général, ce qui n'est pas du tout le cas des États-Unis et du Royaume-Uni. Si vous prenez par exemple la liste grise de l'OCDE qui est parue au printemps dernier, celle-ci montrait du doigt la Suisse comme étant un paradis fiscal, enfin une juridiction qui ne respecte pas bien les normes internationales en matière d'échange d'informations. Un mauvais élève, quoi, menacé d'aller sur la liste noire carrément et d'être donc susceptible de sanctions économiques si elle ne modifiait pas ses règles. Quels étaient les pays qui étaient sur la liste blanche, des pays bons élèves, qui sont respectueux des droits des autres pays en matière d'évasion fiscale, qui n'encouragent pas l'évasion fiscale? Les États-Unis et le Royaume-Uni. Hong Kong et Macao ne figuraient pas sur ces listes. Donc l'OCDE, qui sous couvert de favoriser le combat contre l'évasion fiscale internationale, a été extrêmement biaisé au niveau politique. Le résultat, c'est qu'aujourd'hui, la Suisse a été évincée du marché de l'évasion fiscale internationale, non pas par des ONG bien pensantes, ni même par les citoyens de la Suisse, mais par les États-Unis, son principal concurrent, qui aujourd'hui va récupérer ce marché. Hong Kong, Singapour, le Royaume-Uni, tous les paradis fiscaux qui aujourd'hui pratiquent les trusts et les entités opaques comme les sociétés offshore, et ce sont des montages extrêmement complexes, tout cela sont en train de récupérer le marché de la Suisse, puisque en Suisse, les avoirs non déclarés, eh bien, ils vont subir deux destins séparés. Il y a les avoirs de moins d'un million d'euros à peu près qui vont se déclarer, se rapatrier, parce qu'ils n'ont pas les moyens de faire autrement. Et il y a les avoirs supérieurs à 5-10 millions d'euros qui vont aller se mettre dans ce genre de structure, parce que ça leur garantit encore de nombreuses années de paix fiscale, et tout ça aux dépens de la Suisse. Donc, si vous voulez, moi, la discussion sur le secret bancaire suisse, je trouve que c'est une véritable mascarade, parce que sous prétexte de lutter contre l'évasion fiscale, on a sorti aujourd'hui la Suisse du marché de l'évasion fiscale, c'est une bonne chose, vous me direz, d'accord, mais le reste du monde n'a pas suivi. Il y a des juridictions qui vont s'engraisser sur le dos de la Suisse, ça c'est la réalité. Il y a des pratiques comme le secret des trusts qui n'a toujours pas été challengé sérieusement. Moi j'estime que les trusts, si vous voulez, ce qu'ils font, c'est qu'ils déguisent de l'optimisation fiscale, pardon, ils déguisent de la fraude fiscale ou de la soustraction fiscale en optimisation fiscale. Car l'industrie se vend et se promeut sous l'intitulé de optimisation fiscale, évitement d'impôts. Elle se veut une industrie d'encouragement à payer moins d'impôts, mais légalement. La réalité est tout autre. Les trusts, c'est vraiment la porte à tous les abus. Et là-dessus, j'ai eu la confirmation de spécialistes de trusts, de gens de l'industrie, de l'intérieur de l'industrie qui me l'ont confirmé. Donc aujourd'hui, ce n'est pas un secret, le marché mondial de l'évasion fiscale est allé dans les mains de, entre les mains des juridictions qui ont le droit anglais. Singapour est incluse là-dedans, évidemment Panama, les Bahamas, les Caïmans aussi, Belize. Vous avez des pratiques aujourd'hui tout à fait insensées avec les trusts. Vous pouvez vous montrer comme étant totalement détaché de votre fortune. Vous ne déclarez rien dans votre pays de résidence. Si vous êtes une fortune française, vous héritez et vous êtes résident français, vous ne tombez pas sous la loi des successions parce que tout le patrimoine de votre père est planqué dans des trusts. Donc ce sont des pratiques aujourd'hui qui méritent d'être dénoncées et je trouve qu'ils sont tout à fait encore plus peut-être questionnable que la distinction qu'opérait la Suisse en termes de fraude et d'évasion fiscale. La réalité aujourd'hui, c'est que la Suisse est un pays faible, qui n'avait pas de protecteur puissant, qui a été la cible facile, qui avait effectivement une manne d'avoirs non déclarés estimée à 800 milliards de francs, qui va se résorber lentement ces prochaines années. Ceci aura des conséquences économiques sur la place financière de Genève, c'est tout à fait évident. Il y aura du chômage, il y aura tout un secteur de gens qui vont devoir se recycler. Il y a 7000 gérants indépendants qui ont 80% d'avoirs non déclarés. Il y a des petites banques privées qui n'ont aucune succursale en Europe et qui ont aussi presque 80-90% d'avoirs non déclarés. Tout ça, tout ce pan de l'économie va tomber. Aujourd'hui, ces gens-là n'ont pas le choix. Les clients sont déjà en train de se redomicilier ailleurs. Certains arrivent à les suivre, d'autres pas. Et donc, c'est une économie qui va devoir se réinventer entièrement. Malheureusement, ce que je regrette là-dedans, c'est que ce n'est pas pour le meilleur, mais c'est pour simplement favoriser les parts de marché d'autres places financières beaucoup moins honnêtes que la Suisse. Voilà, moi c'est ce que j'avais à dire et je pense que ça prépare bien le débat. Merci beaucoup.
Merci à Mireille Zaki. Je pense qu'elle a lancé le débat d'une manière très très intéressante. Et donc, on va passer tout de suite aux questions. Je vous